Crocker, international known specialist of the art history and material culture of Southeast Asia, in particular the Buddhist temples of Java. He is well accomplished in this field, and he is also a long-standing friend of both the Cosmos Aesthetics Memorial and the Museum of Ning. As you know, this lecture series is jointly organized by the Austrian Institution. So thank you very much for having accepted to present this lecture, and we look forward to hearing your thoughts about interrelationships between the temples of Central Java, especially as the chronological relations. Thank you very much.
In fact, I have changed the title of my paper a bit. It is now The Buddhist Temples of the Shailendra Dynasty in Central Java, Some Results of a Stylistic Study of Ornamentation. It is a great honor for me to have been invited by the director of the
d'avoir été invité par le directeur de l'École française d'Extrême-Orient pour présenter un article ici à Paris dans le contexte de la série de conférences Images et imagination, le bouddhisme en Asie. Ma conférence traitera de la dynastie Shailendra en Java centrale. Elle sera composée de quatre parties, une introduction générale, une introduction à la dynastie bouddhiste Shailendra, une chronologie de leurs temples, et enfin leurs contacts internationaux et une évaluation de la manière dont ces contacts se manifestent dans l'ornementation des temples.
From about 400 AD, Southeast Asia,
à partir d'environ 400 après Jésus-Christ, un processus commence en Asie du Sud-Est qu'on appelle le plus souvent indianisation. Ce processus comportait l'adoption du sanskrit, de l'écriture indienne, de l'hindouisme et du bouddhisme. Les statues les plus anciennes de l'Asie du Sud-Est semblent suggérer que des modèles indiens jouaient un rôle important dans le processus initial d'indianisation et que des réseaux marchands dans l'Asie du Sud-Est favorisaient la diffusion des modifications locales de ces modèles. En conséquence, les premières images restent toujours proches des codes indiens de représentation et comportent des modifications locales pan-régionales. Dans un article innovateur publié dans le bulletin de l'École française d'Extrême-Orient en 1998, Nadine Dalsheimer et Pierre-Yves Manguin démontrent ce phénomène en étudiant un type iconographique particulier, les Vishnu mitrés en Asie du Sud-Est. Dans cet article, il documente, et je cite,
géographiquement éparses, mais présentant d'indéniables caractéristiques iconographiques et stylistiques communes, ce qui permet de rassembler cette série de statues en une même famille. These are examples of that group of statues. The left one found
voici des exemples de cette famille de statues. La statue à gauche a été trouvée à Chaya, Thaïlande. Celle à droite vient de Chibaya, Java de l'Ouest. Ils ont un toit cylindrique très typique et quatre bras. Sur cette diapositive, encore deux exemples de la Thaïlande du Sud avec le même toit cylindrique. Ici, à gauche, un exemple de l'île de Bangka, Indonésie, et à droite, un exemple de l'art pré-ancorien, qui ont tous des caractéristiques communes. Voici une carte de la région avec la péninsule malaise, Sumatra, l'île de Bangka et Java. La localisation de ces statues est indiquée sur cette carte qui vient de la publication de Dalsheimer et Manguin.
In southern Vietnam and southern Cambodia and here on the Malay Peninsula, on the island of Bangka and here in West, on the coast of West Java. Dalsheimer and Mangin conclude, and again I quote, les états de l'isthme de la péninsule malaise, favorisés par leur position géographique entre océan Indien et mer de Chine méridionale, ont naturellement servi de relais à la pénétration des influences indiennes vers le Cambodge ou vers Java, modifiant au passage l'esthétique des formes voyageuses indiennes. Not only in early Hindu statuary, but also in early Buddhist statuary.
Des correspondances ont été trouvées non seulement avec les premières statues hindoues, mais également avec les premières statues bouddhistes. Pierre Dupont, le premier à identifier le groupe d'images Vishnu connu sous le nom des Vishnu Mitrés, était aussi le premier à décrire un groupe d'images du Bouddha en Asie du Sud-Est qui avait des traits en commun. Dans son article publié dans le Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient en 1959.
The general conclusion is that the first phase
la conclusion générale est que la première étape d'indianisation dans l'Asie du Sud-Est a vu le développement de styles pan-régionaux qui, selon Dalsheimer et Mangin,
ne semble pas en effet devoir être associé principalement à un état particulier de la région, mais sont bien plutôt l'émanation religieuse d'un réseau marchand.
Ils ajoutent que
il faudra attendre le 8e et 9e siècle au Cambodge comme à Java pour qu'apparaissent des formes artistiques résolument localisées, en d'autres termes, des arts nationaux.
My paper today Mon exposé aujourd'hui traitera d'un de ces arts nationaux. L'art de la Java centrale, un des centres du pouvoir les plus importants en Indonésie pendant le 8e et le 9e siècle. En effet, l'art de la Java centrale est localisé. Même si ses origines sont dans l'art indien, il s'est évidemment développé indépendamment pendant cette période, non pas dans une relation étroite avec l'art indien, non pas en participant à un style artistique pan-régional du sud-est asiatique, et non pas en premier lieu suivant des réseaux marchands. L'art de la Java centrale semble s'être développé en premier lieu comme l'art d'un état spécifique, l'état de la Java centrale. Il est donc facile de distinguer cet art de l'art des autres états dans l'Asie du Sud-Est. Voici quelques exemples. Il n'existe aucun monument dans toute l'Asie du Sud et du Sud-Est qui ressemble à Borobudur, avec ses terrasses carrées et avec ses stupas perforés en miniature, ou au complexe de Plaosan avec ses temples jumeaux de forme rectangulaire et à deux étages. Les sculptures montrent des formes et des styles spécifiques à la Java centrale, comme les images de Brahma, Vishnu et Shiva. Les reliefs narratifs respirent une atmosphère locale que l'on retrouve encore sur les maisons en Indonésie. L'ornementation est typique de la Java centrale. Même si cette tête de monstre est dérivée de l'ornement indien Kirtimukha, elle s'est développée indépendamment. On ne trouve rien de comparable dans les arts de l'Inde ou de l'Asie du Sud-Est. En conclusion, on pourrait dire que, contrairement à la première étape d'indianisation, où les réseaux marchands facilitaient la diffusion des styles artistiques, les comparaisons interrégionales ne sont plus utiles pour cette étape suivante d'indianisation. Pourtant, une étude détaillée de l'ornementation des monuments de la Java centrale m'a amené à tirer une autre conclusion. Même si l'art reste local, on peut découvrir des correspondances remarquables avec l'art des autres régions de l'Asie du Sud-Est et du Sud, et avec l'art de la Chine,
as I will show later on.
Comme je vais vous le démontrer plus tard.
Although the majority of the temples
Bien que la plupart des temples en Java centrale soient hindous, le bouddhisme a eu une influence majeure sur la construction des temples. La plupart des grandes structures et des complexes de temples sont bouddhistes. Et ils semblent avoir engendré de nouveaux développements dans les techniques de construction et dans l'aspect formel des bâtiments. La dynastie Shailendra semble avoir joué un rôle important dans ce processus. Qui étaient les Shailendras? On suppose qu'ils étaient responsables de la construction de Borobudur et d'autres monuments bouddhistes en Java centrale, comme Mendut, Kalasan, Sari, un autre bâtiment à deux étages,
Lumbung.
Lumbung, Mais que savons-nous de ces souverains qui revendiquaient leur appartenance à la Shailendravasma, la dynastie Shailendra? Les sources primaires sont un nombre limité d'inscriptions trouvées en Java centrale. Les inscriptions de Kalasan, Kelurak, Ratuboko et Kayumungan, également connues sous le nom de Karangtenga. Le fait qu'on trouve le nom Shailendra dans des sources en dehors de Java, par exemple sur la face B de l'inscription de Ligor en Thaïlande du Sud, et sur l'inscription de Nalanda dans l'Inde du Nord-Est, a suscité des débats sur l'origine des Shailendras. On a suggéré une origine javanaise, sumatrienne, du continent de l'Asie du Sud-Est ou indienne. Depuis 1966, lorsque Bukhari a publié la vieille inscription malaise de Sojo Merto, de date incertaine, qui mentionne un Dapunta Shailendra, des chercheurs acceptent une origine javanaise, ou en tout cas indonésienne. Mais la discussion a été relancée récemment et Roy Jordan écrit dans une publication de 1999 que l'origine des Shailendras reste aussi mystérieuse qu'auparavant. En dehors de leur origine, leur rôle dans la Java centrale a toujours fait l'objet de débats. Une théorie proposée par Van Narsen en 1947 et adopté par De Kasparis en 1950, a eu beaucoup d'influence. Elle suggère que deux dynasties ont dominé la politique de la Java centrale simultanément. Une de ces dynasties était la dynastie Shailendra. L'autre dynastie, toujours selon cette théorie, est parfois appelée la dynastie Sanjaya. On a suggéré que cette dynastie a été mentionnée sur une inscription, Manchasi 1, où l'on trouve une liste de huit rois. Le premier roi mentionné sur cette liste est le roi Sanjaya, qui donne son nom à la dynastie Sanjaya. Sanjaya est également mentionné sur la première inscription datée de la Java centrale, l'inscription de Changal de 732 après Jésus-Christ, ce qui confirmerait sa place comme le premier sur la liste des huit rois. Les deux dynasties étaient opposées l'une à l'autre. On croyait que la dynastie Shailendra était d'origine étrangère. Ses souverains étaient des bouddhistes qui utilisaient l'écriture Nagari. La dynastie Sanjaya était présumée d'origine indigène. Ces souverains étaient des Saïwites et ils utilisaient une version locale de l'écriture Pallava. La dynastie Shailendra est connue des inscriptions de Kalasan, Kelurak, Ratuboko et Kayumuan. On croyait que la dynastie Sanjaya était constituée par la lignée de rois mentionnée sur l'inscription de Mantyasi I. Selon cette théorie, les rois des deux dynasties coopéraient dans la construction des monuments. L'une des deux dynasties dominait l'autre en alternance. Les Shailendra bouddhistes dominaient la dynastie Sanjaya locale entre 778 et 824, et cette période est parfois appelée l'interrègne Shailendra. La théorie des deux dynasties n'a pas été généralement admise. En particulier, des chercheurs indonésiens comme Potpacharaka, Pochari et Kusen, mais également le chercheur français Damet, défendait la théorie d'un seul roi qui règne à un moment donné, et une seule lignée de rois, la lignée de rois mentionnée sur l'inscription de Mantyasi I. Parmi ces rois, il y avait selon cette théorie aussi les rois Shailendra, sans le nom de leur lignage.
Which makes it difficult to identify them. There were different opinions about
Il y avait des opinions divergentes sur les relations de ces rois et sur la question s'ils appartenaient à une famille, à deux branches de la même famille ou à plusieurs familles. Les débats sur le sujet ont été relancés lorsqu'une nouvelle inscription avec une liste de rois a été trouvée en 1983. Cette inscription est d'une grande importance pour la reconstruction de l'histoire de la Java centrale, surtout parce qu'elle donne une liste de rois plus complète. L'inscription Mantyasi I ne mentionne pas les rois qui avaient un règne court, alors qu'on les trouve sur cette inscription de Wanwatenga III. En plus des rois qui avaient du succès au règne long, elle mentionne également ceux qui n'avaient pas beaucoup de succès et qui régnaient seulement pendant quelques mois. Sur cette diapositive, on peut voir que les noms de la plupart des rois mentionnés dans les deux inscriptions sont les mêmes. Deuxièmement, l'inscription est d'une grande importance parce qu'elle mentionne les dates où un roi nouveau prit le trône et nous donne ainsi les règnes comme présentés dans la dernière colonne de cette table. Troisièmement, l'inscription montre que l'ascension au trône n'était pas toujours une succession linéaire de père à fils. Rake Garum, par exemple, n'est évidemment pas le fils de Diagula ni de Rake Awarak, ses deux prédécesseurs. Malheureusement, on ne sait pas si la liste sur l'inscription inclut les souverains de la dynastie Shailendra.
Because in this inscription too, no lineage names are mentioned. Both Roy Jordan and Jan Wissmann
Roy Jordan et Jan Wissmann Christie incluent l'inscription de Wanwatenga III dans des publications récentes, mais Jordan suppose que les Shailendra ne sont pas sur la liste, alors que Wissmann Christie pense qu'ils y sont. Elle suggère qu'ils utilisaient des noms différents pour des contextes différents. Pour les inscriptions en sanskrit, comme l'inscription de Kalasan, Kelurak, Ratuboko et Kayumungan, qu'ils ont émis eux-mêmes, ils ont utilisé leur nom de couronnement en sanskrit. sur les inscriptions ultérieures de Mantyasi I et Wanwatenga III, émises par un de leurs successeurs en vieux javanais, les chalandras sont désignés par leur titre Raka et javanais, leur nom Dia, et par leur nom posthume. Je trouve cette explication convaincante et je pense qu'il y a plus d'arguments en faveur de la théorie d'une seule lignée de rois. Mais ce n'est pas le moment d'en faire l'exposition. Il pourrait être utile de regarder l'inscription de Wanwatenga III de plus près. Les rois sur cette inscription sont mentionnés dans le contexte de l'histoire d'une cession Sima, la cession d'un champ de riz irrigué à un monastère bouddhiste, le monastère de Pikatan, qui avait été fermé, mais que le roi Balitung a rouvert.
It tells us that Rakai Panangkaran, the second in the list,
cette inscription dit que Rakai Panangkaran, le deuxième sur la liste,
had established the grant long ago,
avait décidé de la cession auparavant, et que le prochain roi, Rakai Panaraban, a maintenu la cession. L'inscription indique que Rakai Warak a révoqué la cession et que Diagula n'a pas réagi et a maintenu cette révocation. Ensuite, Rakai Garun a rétabli la cession, mais le prochain roi, Rakai Pikatan, l'a révoqué pour la deuxième fois. La cession restait révoquée pendant longtemps jusqu'à ce que le roi Balitung l'ait rétablie. Sur cette diapositive, les partisans du monastère bouddhiste sont indiqués en bleu. L'inscription indique également pourquoi le roi Balitung, qui a émis l'inscription, a finalement décidé de rétablir la cession Sima. L'inscription dit clairement que c'était pour des raisons politiques et que Balitung y voyait une manière d'assurer sa position comme roi. L'inscription indique littéralement que la cession avait été rétablie afin de rendre stable le siège du roi au royaume. Apparemment, ce monastère bouddhiste était un monastère très important. Il semble avoir été la plus importante institution bouddhiste à soutenir. Des souverains qui ne soutenaient pas ce monastère ne soutenaient probablement aucun autre monastère bouddhiste, ni le bouddhisme en général. Suivant la théorie des deux dynasties, on pourrait commencer par l'idée que Balitung ne mentionne que les souverains Saiwit indigènes qui l'ont précédé. La conclusion de l'inscription Wanwatenga III serait alors que certains de ces souverains Saiwit ont contribué au monastère bouddhiste et que d'autres n'ont pas contribué. Ceux qui ont contribué ont probablement subi des pressions par les rois Chalandra qui les dominaient. Suivant l'autre théorie, on pourrait commencer avec l'idée que Balitung a essayé de se lier avec les rois de la Java centrale sans se demander s'ils étaient hindous ou bouddhistes ou s'ils appartenaient à la famille des Chalandra ou à d'autres familles. Et pourquoi le roi Balitung, qui a rétabli une cession à un monastère bouddhiste comme dernier recours pour protéger sa position, n'aurait-il pas voulu se lier aussi avec les importants rois Chalandra qui avaient construit tant de temples bouddhistes? Si nous analysons cette inscription de ce point de vue, les rois qui ont révoqué la réglementation relative à la cession du champ de riz seraient probablement des rois hindous, car il semble improbable qu'un souverain bouddhiste révoque une disposition existante en faveur d'un monastère bouddhiste. sauf sous des conditions économiques très sévères.
In any case, they stand apart from the others because they supported this important.
Même si ce n'est pas la seule interprétation possible, on pourrait commencer avec l'hypothèse que les rois qui ont établi, maintenu et rétabli le sima en faveur du monastère étaient des rois bouddhistes et que ceux qui l'ont révoqué ou ont maintenu la révocation étaient des rois hindous.
In whatever way one wants to interpret the Vanuatu III inscription, the idea of two periods of Buddhist
dominance. Quelle que soit la manière dont on interprète l'inscription de Vanuatu III, l'idée de deux périodes de dominance bouddhiste est également reflétée dans l'architecture bouddhiste. Cela apparaît à travers une analyse stylistique de l'ornementation des temples. Cette étude est le résultat d'un projet de recherche sur lequel j'ai travaillé. Dans cette étude, je suis des études françaises, en premier lieu celle de Philippe Ster, qui a appliqué la méthode de l'évolution des motifs à l'art des temples Khmer, Cham et Indien, et qui a fourni une base théorique pour ce type d'analyse. À partir de cette analyse, on peut distinguer deux périodes de construction. Une première période prolongée qui pourrait correspondre au règne des deux premiers rois, Panangkaran et Panaraban, qui ont soutenu le monastère bouddhiste selon l'inscription Vanuatenga III, et une deuxième période ultérieure, plus courte, qui pourrait correspondre au règne de Rakegarun. Sur cette diapositive, j'ai indiqué les temples bouddhistes les plus importants des deux périodes. Banyu Nibo, Borobudur, Kalasan, Lumbung, Mendut, Pawon, Sari et Sewu appartiennent à la première période, et Nawen, Plaosan, Kidul, Plaosan Lor et Sojiwan appartiennent à la deuxième période postérieure. Attribuer Plaosan Lor à la période Rakaigarun nécessite des explications, parce que le complexe de Plaosan Lor a longtemps été attribué au Maharaja Shaivit Rakai Pikatan, le successeur de Rakaigarun.
Here is Plaosan Lor, the complex with two almost identical main buildings. According to the reconstruction by de Kasparis,
selon la reconstruction de De Kasparis, Pramodavardhani, la fille du roi Shailendra Samaratunga,
is mentioned as the daughter of the Shailendra king Samaratunga in the inscription of Kayumbungan. So according to the reconstruction by de Kasparis,
donc selon la reconstruction de De Kasparis, est la même personne que Shri Kalununan,
who is known from other inscriptions. This
Shailendra, cette princesse Shailendra,
Pramodavardhani, alias Shri Kahulunan, married
a épousé le roi hindou Rakai Pikatan.
Still according to the theory of de Kasparis. Together,
ensemble, ils ont construit des monuments hindous comme Lorojongran, Prambanan, et des monuments bouddhistes comme Plaosan Lor. Cette interprétation est basée sur le fait que leurs noms sont inscrits sur quelques bâtiments secondaires autour des deux temples centrales de Plaosan Lor.
This actually doesn't give the name of one of these people, but another name. But this is just to show what kind of inscriptions you can find on these secondary shrines. However,
cependant, Shri Maharaja Rakai Pikatan n'est mentionné que deux fois sur le cercle extérieur de bâtiments secondaires, en bleu sur cette carte.
Grand plan. So here his name is inscribed.
Alors que Shri Maharaja en vert est mentionné sans d'autres noms ajoutés à plusieurs endroits sur le cercle extérieur et intérieur.
It was assumed
on supposait que ce Shri Maharaja était le même que Shri Maharaja Rakai Pikatan. Mais suite à deux nouvelles découvertes, cette identification doit être remise en cause. Premièrement, Buhari et Théo ont démontré de manière convaincante que ce titre de Shri Kaulunan n'est pas le titre de l'épouse principale du roi régnant, mais le titre de la reine-mère. Si nous prenons en compte que ce titre était également utilisé sur une inscription en 842 après Jésus-Christ, il s'ensuit que Shri Kaulunan était la mère de Rakai Garum, puisqu'il régnait en 842. Si nous acceptons la théorie d'une seule lignée de rois, cela expliquerait pourquoi Rakai Garum a rétabli la cession Sima en faveur du monastère à Pikatan. C'était son arrière-grand-père qui avait décidé de la cession. Cela expliquerait aussi pourquoi Pramodawardhani, alias Shri Kaulunan, était une femme aussi importante. C'était par sa lignée que Rakai Garum pouvait se lier au Shalendra et revendiquer le trône. La deuxième découverte concerne le nom personnel de Rakai Pikatan. L'inscription Vanuatenga III nous révèle que ce nom était Dia Saladu.
In the Vanuatenga III inscription, he is mentioned Rakai Pikatan Jah Saladu. But as a result, it now appears
en conséquence, il semble que Rakai Pikatan a construit deux bâtiments lorsqu'il n'était pas encore roi et qu'il s'appelait toujours Rakai Gurunwangi Dhyasaladu pendant le règne de Rakai
Garum. So this apparently he contributed to this building during the reign of Rakai Garum, so he still was not a king at that time. This name
ce nom
is found
se trouve
on the same two
sur les deux bâtiments qui portent le nom
that carry the name of Shri
de Shri Maharaja Rakai Pikatan.
Which name was clearly added later,
ce dernier nom a manifestement été ajouté ultérieurement après que Dia Saladu soit devenu Rakai Pikatan et est accédé au trône.
The conclusion is that the Shri Maharaja is not the same as Shri Maharaja Rakai Pikatan, but that it is an earlier king, and that Maharaja Rakai Pikatan later added his name to this complex. There is yet another piece of evidence
un problème
that would
qui
fall
serait
in place.
Résolu. Un des notables importants mentionnés sur les inscriptions courtes de Kandy Plaosan est le Sirikan Pusurya, en rose. Apparemment, il était un notable important pendant le règne de Rakai Garum, car le même nom apparaît sur une inscription émise par Rakai Garum en 928 après Jésus-Christ. Beaucoup de chercheurs considèrent Plaosan Lor et Loro Jongran comme des œuvres du roi hindou Rakai Pikatan et son épouse bouddhiste, alors qu'il semble maintenant plus probable que Plaosan Lor était le monument d'un roi bouddhiste. Et je suggère que c'était Rakai Garum qui était apparenté à la dynastie par sa mère, et que Plaosan Lor est antérieur à Loro Jongran, comme Fogler et Williams avaient suggéré.
So there are many ideas. Most people think that they date to more or less the same period. Krom and Dumarset suggest that Plaosan Lor is later than Loro Jongran, but Fogler and Williams think that Loro Jongran is later, and this would conform to my suggestion here. And this later date of Loro Jongrang as compared to Plau San Lor corresponds
cela
to results
correspond
of
au résultat d'une analyse stylistique.
The monster head
La tête de monstre
may serve
peut servir d'exemple.
While the early Buddhist ones do not
Les premières
have
têtes de monstres bouddhistes n'ont pas de mâchoire inférieure et n'ont pas de pattes. Celles de la période bouddhiste postérieure ont parfois une mâchoire inférieure et les pattes tournées vers le sol.
As you can see here in examples from Ngawen and Plau San Lor. Those of the latest
celles de la dernière
periods,
période,
the latest Hindu periods,
hindou,
so this is the period of Loro Jongrang, do have a
ont une mâchoire inférieure et les pattes tournées vers le ciel.
Jaw, also upward-facing paws, which you can see here. Also, the ornaments above
les ornements au-dessus des yeux ressemblent à
like
des cornes,
thus
ce qui donne à ce dernier groupe de monstres l'aspect
heads,
le plus farouche.
The fiercest appearance of all. One other example,
un autre exemple, la guirlande aux cacatoès. Pendant la première période bouddhiste, les cacatoès sont assez minces et sont tous tournés vers la même direction sur une guirlande, composée de plusieurs chaînes de perles.
They stand on garlands consisting of strings of beads. During the late Buddhist period, in this
Pendant
example,
la période bouddhiste postérieure, ils sont toujours assez minces
their bodies are still quite slim, and they
et ils sont placés sur une guirlande similaire,
of strings of beads, but now they
mais les oiseaux sont face à face en symétrie.
Mirror-wise.
Enfin, pendant la dernière période, les cacatoès sont beaucoup plus grands ils sont face à face et la guirlande a changé aussi. Elle consiste d'une bande simple décorée d'une bordure de perles.
These are just two examples. Many more ornaments
De nombreux autres ornements montrent que Plau San Lor est antérieur à Loro Jongrang.
Predates Loro Jongrang. During the first period
Pour
of
la première période de construction de temples bouddhistes, on peut distinguer plusieurs styles différents dans l'ornementation, ce qui suggère que les ornements se sont développés à travers une période assez prolongée.
And that this period was a rather long period. The second period
Par contre, la deuxième période semble avoir été plus courte parce qu'il y a moins de variations. En plus des variations qui suggèrent un développement temporel, la première période semble aussi manifester des variations locales. Par contre, la deuxième période postérieure montre un style uniforme sur un vaste territoire, ce qui suggère la présence d'une influence centrale forte. À côté des nombreuses et grandes structures bouddhistes, la première période n'a produit que des petits temples hindous, tous dans des zones périphériques. Un des plus grands est le complexe de Merak, situé assez loin à l'est. Merak est un cas intéressant parce que ses ornements ressemblent beaucoup au complexe de Sewu. Il semble que les architectes du temple Merak ont pris Sewu comme modèle. Ce makara, à gauche, sur la rampe de l'escalier, est remarquable parce que l'extrémité prend la forme d'une tête de serpent. Un makara similaire se trouve sur l'escalier du temple de Boubra, un temple qui faisait partie peut-être du complexe de Sewu. Ici en haut, on voit l'escalier du temple Merak. Le relief est presque exactement le même que sur l'escalier du temple principal du complexe de Sewu. De gauche à droite, on peut observer un pot avec des offrandes.
A pot with offerings. Here and here. A wishing tree.
Un arbre au souhait.
A guardian figure.
Un gardien avec une main sur la hanche et l'autre appuyé sur un bâton.
And with the other hand leaning on a club. And finally,
et un pilastre. Un autre exemple, en haut, on voit la voûte au-dessus de l'entrée qui mène à la chambre intérieure du temple de Merak. Une tête de monstre décore le point central de la voûte. En bas de la voûte, il y a deux figures volantes.
And this arrangement is very similar.
Une composition très similaire à la décoration au-dessus de l'entrée d'un des types d'hôtels secondaires dans le complexe de Séoul.
So the monster head and the two flying figures.
Un dernier exemple, le linteau au-dessus de l'entrée à la chambre intérieure semble être une reproduction des linteaux au-dessus des entrées d'un deuxième type d'hôtel secondaire à Séoul. Dans les deux cas, on voit une tête de monstre sans mâchoire inférieure et deux sages divins qui montent des nuages, tenant des offrandes dans les mains. Dans l'art de la Java centrale, on trouve rarement une reproduction aussi fidèle d'un ornement. Il est assez exceptionnel pour cette première période de construction de temples de trouver deux temples avec des ornements très similaires. Il est difficile de dire pourquoi ces ornements se ressemblent autant. Un aristocrate à la périphérie du royaume aurait-il voulu se mesurer au roi Chalandra qui a construit le complexe de Séoul? La deuxième période a produit des temples hindous plus grands et plus nombreux. Comme Ijo, Kedulam et Sambisairi, aussi bien dans le centre qu'à la périphérie.
As I mentioned, this period shows a uniform style.
Ces antéfixes de différents temples, hindous ainsi que bouddhistes, servent à exemplifier cette uniformité.
These antéfixes from various temples, both Hindu and Buddhist, serve to exemplify this uniformity. As you can see, they all look very much alike. These antéfixes are found in the area of
Ils se trouvent dans la région de Borobudur.
It's very small on the map. I hope you can see it. On Plausan
Lor. À Plausan Lor.
Here. And in this surrounding
et sur
area
plusieurs
of
temples
Lor,
alentours,
on the western
sur les pentes orientales et occidentales du mont Merapi,
Merapi
et au sud-est et à l'est de Gedongsongo.
So all these small
tous les petits points sur la carte et le grand point de Plausan Lor.
Such uniformity
pour le style de la première période, on ne trouve nulle part une telle uniformité sur un territoire aussi vaste. Le style de la première période peut être distingué clairement de celui de la deuxième période. Il semble y avoir eu un point de rupture entre le premier et le deuxième style. Cette rupture, que j'observe dans l'ornementation, a aussi été relevé par Jacques Dumarsais dans le domaine des techniques de construction. Lui aussi distingue une première période et une deuxième période dans son histoire de l'architecture de Java. Il propose que la distinction entre les périodes pourrait être le résultat de nouvelles influences pendant la deuxième période. Il écrit:
il est probable que les maîtres d'œuvre javanais ont reçu de l'Inde une nouvelle impulsion culturelle.
Une autre explication pourrait être qu'il y avait un temps d'arrêt dans la construction des temples entre la première et la deuxième période. Jusqu'ici, je n'ai réussi à attribuer aucun monument au règne de Rakai Warak. Permettez-moi d'illustrer la différence stylistique entre la première et la deuxième période à l'aide de trois types d'ornements. L'antéfixe, situé sur les corniches du corps principal du temple et sur la superstructure. La guirlande, généralement située sur une frise juste sous la corniche, et la bande, qu'on trouve à beaucoup d'endroits,
called bande à chaton in the French publications by Mireille Benesti. This is an ornament that is found very frequently on central Javanese temples. It is found in many locations, for instance, on a projecting molding. Here one can see
ici,
such a molding
on voit un temple
avec
une de ses moulures, avec une bande et une guirlande.
And also the garland ornaments.
Les antéfixes sur les premiers temples bouddhistes ont un contour irrégulier. Le contour de la façade extérieure suit les lignes de l'ornement. Le contour des temples bouddhistes de la période postérieure est net. L'ornement suit la ligne de la façade.
The outline may consist of straight
le contour
lines,
peut suivre une ligne droite ou courbée.
Example, or of curved lines, as in this lower photograph.
La méthode de production des exemples postérieurs prenait moins de temps que celle utilisée pour les premiers exemples. Les antéfixes peuvent avoir une, trois ou cinq pointes.
Three points, as in this case, or five points, as we find here. The five-pointed examples.
Les exemples à cinq pointes se trouvent seulement sur les temples postérieurs.
Marked differences can also
des différences considérables existent aussi dans la décoration de la base des antéfixes.
So here the base of this
par exemple, la base de cet antéfixe a été décorée par une guirlande, ce qui est caractéristique de la période postérieure.
And this is a late characteristic. If bases of antéfixes
si les bases des antéfixes sont décorées, la décoration de chaque période est différente.
For early and late antéfixes. While band border
les ornements de la bande, la bordure et la guirlande dominent sur les temples de la période postérieure, alors qu'un motif mouluré domine sur le premier groupe de temples, à gauche. Ici, un exemple mouluré. La décoration du point central des antéfixes est aussi différente pour les deux groupes. Les premières antéfixes sont des motifs à feuilles qui se développent vers l'extérieur et verticalement. Les antéfixes postérieures ont un motif à six feuilles tout en haut de l'antéfixe. Ce motif horizontal brise la verticalité de la fête pointue. Ce petit motif à six feuilles semble apparaître à un moment donné dans beaucoup d'ornements. Sa présence est un bon indicateur pour établir qu'un temple appartient à la période postérieure. Le motif à six feuilles est aussi présent sur les guirlandes des temples postérieurs. Par exemple, à Plao San Lor.
You find it here and here. Here's my drawing. So it is found in the garland ornament as the top from
où la guirlande est suspendue du motif sur la fête. Les formes les plus répandues de fêtes à guirlande sur les premiers temples consiste de 4 au lieu de 6 éléments. Le plus souvent un motif à feuilles composé de 3 feuilles verticales et une feuille suspendue, comme dans l'exemple en haut qui vient de Borobudur. Des frises avec des oiseaux perchés sur des guirlandes se trouvent sur les temples des deux périodes. Cependant, la manière dont les oiseaux sont présentés diffère. Dans les premiers temples, les oiseaux sont tournés vers la même direction. Dans les temples postérieurs, ils se trouvent face à face, le plus souvent symétriques, comme à Plaosan Lor. Les premières formes de la bande consistent en la répétition de formes géométriques. De manière assez soudaine, il semble qu'une variante s'est développée où les carrés au côté concave devenaient des fleurs à 4 pétales.
So the squares with a concave side on the left and the right. So quite suddenly this seems to change into a four-petaled flower, as you can see here.
Cette variante s'est développée parallèlement aux formes géométriques qu'on a continué à employer. À côté des fleurs, des motifs feuillés ont été ajoutés, comme le motif à 6 feuilles que nous avons déjà vu et une volute feuilletée.
And also another foliate motif that starts to appear is a kind of foliate scroll.
Et une volute feuillée.
Here. Comparing the ornaments
en comparant les ornements à gauche
right,
aux ornements à droite, on pourrait conclure que les formes antérieures montrent un style plus orné, plus fleuri et feuillé.
Like
comme le motif à 6 feuilles, l'ornement à bande avec des fleurs est aussi un bon indicateur pour classer un temple dans la période postérieure.
A stylistic analysis of other ornaments leads to the same conclusion that two main periods of Buddhist temple building can be distinguished.
La dernière partie de mes recherches concerne la relation entre l'art de la Java centrale et les autres états contemporains. Cette partie est toujours en cours de réalisation et jusqu'ici elle n'est basée que sur des photos connues, non pas sur des recherches in situ.
Consult the photographs of the École française d'Extrême-Orient, which I think I should do.
Néanmoins, je voudrais partager avec vous quelques résultats de ce travail. Il était plus difficile que j'avais pensé de trouver des correspondances. Après avoir fait une étude détaillée de l'ornementation de la Java centrale, je me suis rendu compte à quel point elle est localisée, encore plus que je le croyais. Par exemple, je m'étais attendu à ce qu'il y ait plus de correspondances avec l'art indien, parce que beaucoup d'ornements ont leur origine en Inde. Guirlandes, tête de monstre, makara, lotus, arbre à souhait, etc. Mais je n'ai pas réussi à trouver des formes similaires en Inde, mis à part une exception, l'ornement de la bande, l'ornement que je m'attendais le moins à trouver en Inde. Selon la documentation, cet ornement n'est pas très répandu. Mireille Benisti a démontré cela de manière très détaillée, souvent à l'aide de cas peu connus comme les bijoux des divinités ou une bande étroite sur un pilier. Un des cas qui ressemble plus à la Java centrale est une bande qui décore une moulure sur un stupa votif à Bodh Gaya, un des sites de pèlerinage les plus importants de l'Inde.
And as far as I could gather, it is only found on this one votive stupa as well. There are many, many votive stupas, but only on this one. Another interesting case is where we find the
Et aussi sur un cadre dans le temple Rajasimheshvara à Kanchipuram.
On the Rajasimheshvara temple of in Kanchipuram, which according to Susan Huntington,
selon Susan Huntington, ce temple date de la première moitié du 8e siècle, ce qui est un demi-siècle avant les premiers temples bouddhistes en Java centrale.
This band ornament consists
Cette bande consiste de carrés et cercles,
circles, as can be found on Banyu Nibo, for instance, but the projecting
alternant, comme on la trouve entre autres à Banyu Nibo. La moulure saillante, avec des figures qui ressemblent à des nains et décorées avec une bande différente, assez similaire à la bande de Banyu Nibo et Nawen.
Found on Banyu Nibo and Ngawen. Note specifically the flower.
Surtout, notez la fleur au cœur carré.
So, a square heart, a square heart, and a square heart. I found more connections with Sri Lanka.
J'ai trouvé plus de liens au Sri Lanka. Ce n'était pas vraiment surprenant, puisque les contacts avec Sri Lanka, spécifiquement avec le monastère Abhayagiri à Anuradhapura, sont mentionnés sur l'inscription de Ratuboko de 792. Il s'agit d'une des inscriptions en sanskrit émises par un roi Chalandra.
It documents, and I quote from
L'inscription
the
dit que
this Abhayagiri Vihara here,
cette Abhayagiri Vihara a été établie par les ascétiques Shingalais.
The Abhayagiri Vihara was a well-known monastery in Anuradhapura.
Le Vihata Abhayagiri était un monastère renommé en Anuradhapura au Sri Lanka. L'inscription Ratuboko suggère qu'un monastère similaire à celui de Abhayagiri était établi à Java.
And it has now become clear through articles by John Mixick and
On sait maintenant, grâce aux articles de John Mystic et Véronique de Groot, qu'il y a sur le plateau de Ratuboko un bâtiment qui ressemble beaucoup au monastère de méditation à l'ouest de Anuradhapura. Ces monastères consistent de bâtiments à plateforme double avec un mur d'enceinte.
Quite high surrounding wall, and it is exactly such a building that
C'est précisément ce genre de bâtiment qu'on trouve à Ratuboko.
So these are the two platforms, so that's why they're called double-platformed buildings. They are connected by a kind of bridge, and there are staircases. So this is at Ratuboko, the place where the inscription mentioning the
Donc on trouve à Ratuboko où l'inscription qui mentionne le Abhayagiri Vihara a été trouvée. Voici le plan d'un bâtiment sri lankais à plateforme double.
So to return to the ornaments in central Javanese art, makaras.
Dans l'art du Java central, makaras avec des jambes.
As on Banyu Nibo, are rare.
Tout comme Banyu Nibo, sont rares. Ils ont peut-être été inspirés par des makaras à jambes sur la décoration du haut du urinoir. La pierre lunaire devant l'escalier qui mène au pavillon de la reine, ou Abhayagiri Vihara à Anuradhapura, qui date du 8e siècle, ressemble aussi à l'ornementation de la Java centrale, surtout la bordure, l'ornement en spirale et le motif à trois feuilles. L'ornement de la bande apparaît sur les peintures de Sigiriya, surtout celles qui datent du 8e siècle. L'exemple sur le Mahamerugala au Sigiriya Dagoba est particulièrement proche des exemples de la Java centrale parce que les carrés et les cercles sont imbriqués de sorte que les côtés des carrés deviennent concaves. Des relations artistiques apparaissent aussi dans l'ordre Dravarati, en particulier dans les Dravarati Dharma Chakras, les roues de la loi bouddhiste, qui ont été trouvées en Thaïlande centrale et en Thaïlande du Sud, et qui ont été documentées dans le livre de Robert Brown, The Dravarati Wheels of the Law and the Indianization of Southeast Asia. Ici, nous trouvons des exemples de la bande. Un autre ornement qui s'est répandu est l'ornement de la bande composé de losanges et de cercles.
So here an example on a Dharma chakra and the same ornament as found on the Kalasan temple in central Java. Also the band consisting of flowers
et la bande avec des fleurs et des feuilles enchaînées montre des correspondances.
This last ornament is found
Ce dernier ornement se trouve sur un Dharma chakra qui a été trouvé à Chaya, d'où vient également l'inscription de Ligor qui mentionne un roi Chalandra qui s'appelle Maharaja. Il est intéressant de noter que les ornements de la bande à fleurs et à feuilles enchaînées apparaissent dans la deuxième période de construction de temples bouddhistes en Java centrale pendant le règne de Rakai Garun. La face A de l'inscription de Ligor date de 778 après Jésus-Christ, mais la face B, qui mentionne le roi Chalandra, n'a pas été datée. Une révision de la paléographie suggère que la face B est postérieure à la face A. Beaucoup de différences paléographiques entre B et A se trouvent également sur les inscriptions courtes de Plaosan Lor, la deuxième période de construction des temples bouddhistes. Je voudrais soutenir que le Sri Maharaja de la face B de l'inscription de Ligor est le même que le Sri Maharaja de l'inscription courte de Plaosan Lor. La ressemblance dans l'ornementation pourrait alors refléter les contacts d'un roi Chalandra avec cette région. Robert Brown démontre des liens entre l'art de Dravarati et l'art de la Cambodge préhistorique. En effet, deux des ornements que les chakras Dravarati partagent avec l'art de la Java centrale sont aussi présents dans l'art préhistorique. La bande avec des carrés et des cercles. Et la bande avec des losanges et des cercles, souvent en forme de fleurs.
With diamonds and circles, these two have been extensively documented by Mireille.
Ces ornements ont également été documentés de manière détaillée par Mireille Benisti.
This last band ornament. With diamonds and circles.
Ici, vous voyez des exemples de l'ornement de la bande avec des carrés et des cercles.
Is also found in Cham art, an art
et ici, des exemples de la bande aux losanges et aux cercles. On trouve également le dernier type de bande dans l'art Cham, un art dont on a souvent démontré les liens avec l'art de la Java centrale, surtout en ce qui concerne le groupe d'hôtels Meissen E1. D'autres ornements qui ont des correspondances avec l'art de la Java centrale sont un motif en forme de diamant. Et un motif floral. Qui ressemble beaucoup à un motif floral à Nawen, par exemple. Toutes ces relations artistiques sont des relations auxquelles je m'attendais, étant donné les contacts interrégionaux documentés par d'autres sources, et étant donné que toutes ces régions participaient au processus d'indianisation. Toutefois, j'ai été surprise de découvrir qu'à partir d'une certaine époque, l'art de la Java centrale montre aussi des influences chinoises. L'influence chinoise sur l'ornementation de la Java centrale semble venir des marchandises chinoises de la période Tang qui ont été exportées en Indonésie, particulièrement la soie, l'or et l'argenterie. Malheureusement, il nous reste très peu de soie de cette époque, dont la plupart sont des fragments préservés depuis l'an 756 dans une collection japonaise. Mais des objets d'or et d'argenterie Tang ont été exhumés en Java centrale. Et des formes Tang sont copiées.
As for instance in this bowl with a four-lobed shape. The idea of Chinese influence is not
L'idée d'une influence chinoise n'est pas tout à fait nouvelle.
Hidden in a volume on economic exchange and
Dans un ouvrage sur les échanges économiques et les interactions sociales en Asie du Sud-Est, Hiram W. Woodward a publié un article intitulé A Chinese Silk Depicted at Candy Sewu, une soie chinoise dépeinte à Candy Sewu. Voici cette soie représentée sur le temple principal du complexe de temples à Sewu.
It appears to have the size of a real piece of
Elle a les dimensions d'un vrai tissu. Woodward démontre que les motifs sont chinois ou qu'ils ont du moins été basés sur un textile chinois.
Here is some of the fragmentary Chinese
Voici quelques fragments de la soie chinoise.
So specifically this pattern here. And I think here's another one, and this is a detail of such a roundel with an animal inside. The influence doesn't seem to
L'influence
be limited to this
ne semble pas avoir été limitée à ce motif de cercles enchaînés.
On a number of temples,
Sur certains temples, j'ai remarqué des fleurs
that are depicted
qui ont été
in
représentées dans le style de l'art chinois.
From what we saw before. But they resemble very much the way of depiction in Chinese art. So they're
qui ont été représentés dans le style de l'art chinois, de côté et sans cœur, et avec des feuilles composites, éventuellement des pivoines ou des camélias.
They seem to occur at the end of the early phase of Buddhist temple building on Sewu, Bonyunibo and Mandut.
Elles semblent apparaître à la fin de la première période de construction de temples bouddhistes à Sewu, à Bonyunibo et à Mandut. Tous les trois temples montrent des signes de restauration. L'influence chinoise semble appartenir à la dernière phase de restauration. L'influence chinoise est aussi reflétée dans ces sages à l'allure chinoise à Sewu et Merak.
So this is an example from Merak. And these are from Sewu with this characteristic long moustache, long and thin moustache. Chinese influence seems to have
L'influence chinoise semble avoir été prolongée. Dans la période ultérieure de construction de temples, nous trouvons des représentations de fleurs qui ressemblent à la manière chinoise de représenter les pivoines ou les chrysanthèmes chinois.
These are, in fact, later Chinese examples. This comparative investigation
Cette étude comparative est encore à ses débuts. Mais j'espère avoir démontré l'utilité d'une étude comparative des ornements suivant la méthode de Mireille Benisti.
A comparative study of ornaments in the manner carried out by Mireille Benisti makes sense.
Même pour cet art très localisé de la Java centrale, il est certain que les relations intra-régionales sont d'un caractère différent par rapport à la première phase de l'indianisation. Elles ne sont pas le résultat d'un réseau marchand pan-régional qui adopte un vocabulaire artistique commun. Les États naissants voulaient évidemment développer leurs propres formes artistiques spécifiques. Cependant, il est possible que le prestige et la promotion sociale aient joué un rôle dans l'adoption des ornements étrangers. Tout cela nécessite des recherches supplémentaires. Pour citer Robert Brown, une étude détaillée de l'art pré-ancorien et de l'art Dharavati, et plus en général de l'art de l'Asie du Sud-Est au 7e et au 8e siècle, est nécessaire pour comprendre complètement les relations artistiques interrégionales. La Java centrale n'a pas participé beaucoup à ce type de recherche pour l'instant, en tant qu'un des États les plus importants de l'époque. Elle pourrait certainement jouer un rôle intéressant dans une telle recherche.
Of course, in this lecture series, we've been particularly interested in the interaction of Buddhism with local economic. just a small and very ignorant question. You mentioned that the inscriptions are in the Nagarjuna script and associated according to the script with different ruling houses in Java. Does this imply that there were particular links between these ruling houses in specific regions in India, or were the scripts used, the Indian scripts used in different in Java?
The Nagari script is specifically connected with the Shailendra dynasty. That's very clear. There were relationships with Nalanda, that's what we also know, but that's from a bit later period. So this inscription of Nalanda, which mentions also Shailendra king, mentions that this, it mentions a king who is a ruler of Sumatra, but he has his ancestry goes to one of the first Shailendra kings known from the other sources.
Time is unfortunately almost up, but maybe I have time perhaps for one or two questions from the audience. I'd also specialists here with the Southeast Asian Buddhism. Who would like to make a comment or just get it on?
As you know, I was always a bit more interested in the Bodhi Basilica than in Java itself, in the outlying processions. It seems that if you want to follow up, when Balabhadra Dewa was kicked out of Java by Gatana, I think, he settles in, goes back to his mother in Palembang, Vijaya. We now have quite a lot of brick decoration in temples and houses, like 25 of them, in very bad state, but at least there are motifs that you could, I suppose, use to illustrate what comes after 840, 850. And it's very rarely used, and I think there's enough now to bring it into the picture.
Yeah.
Because it is the Shailendra art, after all, this is the Shailendra period of Srijaya.
Are you referring to the material of which you also gave photographs to me?
Some of them, but okay. More temples have been opened and restored in the same area.
Yeah.
And since then, we've gathered more again.
Yeah.
So I suppose there's enough now. I haven't been working on that for long, but I gather there's a lot more now. So I think it might be worth having a look now at what is available.
I am planning to include these, but they show a slightly later stage, which corresponds with the idea that Balaputra initiated that style in southern Sumatra.
Do you associate this, what you have described, this period is called as Srivijaya, or do you give different names to kingdoms you have research? Is it all Srivijaya?
No, this is not Srivijaya. Srivijaya is now definitely, I think, considered to be in South Sumatra. That's right, isn't it?
The start of this is no more combined discussion.
Well, yeah, there might have been relationships, but that I think is still very unclear. And at least in the ornamentation.
This time, what you call the empire in Central Java, then what is associated with which empire?
Central Javanese Empire.
No particular name?
No, that's not.
And we can draw a conclusion from what you said that also in the second period there was direct influence from India.
The problem is that I do not really see very much direct influence from India. No.
No more. As you saw in the first period.
No, exactly.
But
no.
In the second, we can conclude that there are autonomous developments. It's no more. Influence from India.
Yeah, well, the influence is very indirect.
Yeah.
Any other comments or questions?